Vous écoutez la voix sans Dieu ni maître.
Radio Libertaria, unde non aginta quatuor megahertz.
Radio Libertaire, 89.4.
Noli oblé whisky cartulam auditoris emere.
N'oublie pas d'acheter ta carte d'auditeur.
Ut nos pecunia sustineas.
Pour nous aider financièrement.
Hae cartula centum francis consta.
Cette carte
coûte 20 euros.
Quam emere potes in libraria libertari mundi taberna.
Tu peux l'acheter à la librairie du monde libertaire.
In domo quintesima quadragesima quinta via e Amelot.
Au 145 rue Amelot.
Quacum cartula minoris solues proquibus dam spectaculis.
Avec cette carte, tu paieras moins cher certains spectacles.
Alis queremus attractivis.
Et autres attractions.
Radio Libertaria, sediosissima ex omnibus.
Radio Libertaire, la plus rebelle des radios.
Oui, j'arrive avec un tout petit peu de retard, pardonnez-moi. Dessous de scène, magazine de réarmement poétique. Oui, puisque comme depuis deux semaines, notre président de la République a indiqué qu'il fallait réarmer le pays économiquement et même sur le plan horizontal de la natalité, eh ben nous, on va faire du réarmement artistique. Dessous de scène, quelques petits, je me souviens quand même, histoire d'entamer ce magazine. Je me souviens du type croisé sur une manifestation, vêtu d'un pull à rayures blanches et rouges, d'un bonnet blanc à pompons rouges, flanqué d'un photographe et profitant de la foule pour être quasiment invisible sur les photos. Mais c'était son objectif, jouer à Où est Charlie ? Je me souviens de Joris Brantuas a fait ça, du street art minimaliste, fait de quelques mots colorés sur un autocollant et la signature de l'artiste par le texte lui-même. Je me souviens que Liliane, avait tout fait pour ne pas avoir d'enfant. Quitte à rompre avec Claude, qui pourtant lui plaisait beaucoup. Car Liliane savait qu'à la mort de ses parents, elle aurait la charge de Sébastien, son jeune frère autiste. Je me souviens de remplacer Darmanin par un bouquet de persil sur des affiches du Bas Belleville et aussi remplacer la 5G par le point G et remplacer Zemmour par un ballon d'eau chaude avec une typographie simple et une illustration monochrome. Je me souviens que Roland allait parfois avec ses parents assister aux enregistrements de Dimanche Martin au Théâtre de l'Empire. Eh ben, tu sais quoi, Roland nous avait tous rendus jaloux la fois où, entre des artistes bien pour ses parents, type François Valéry ou Mireille Mathieu, ben, il avait eu droit à une performance des Garçons Bouchers. Je me souviens de Autoportrait d'un artiste dénué de talent dans un livre de Serge Brussolo. Je me souviens qu'Émilie et Kazem avaient conclu un échange. Elle lui donnait des cours de français le soir et l'aidait à remplir ses papiers. Et lui lui donnait des cours de cuisine le week-end. Et l'histoire ne s'est même pas conclue par un mariage, mais par deux, chacun de son côté. Bah non, tout n'est pas comme dans les livres. Je me souviens qu'un 6 septembre, les cours en fac n'ayant pas encore commencé, Guillaume était revenu dans son ancien lycée et avait réussi à taper l'incruste sur toutes les photos de classe de toutes les terminales, sans se faire remarquer, même par un photographe professionnel blasé. Je me souviens que mon boulanger de la place des Fêtes avait dû fermer 2 semaines par arrêté préfectoral pendant le Covid, pendant le second confinement, pour avoir honteusement vendu une baguette 10 minutes après l'heure du couvre-feu. Le rideau de fer baissé de sa vitrine fut couvert de petits mots de soutien des habitants du quartier, y compris d'ailleurs de ceux qui ne lui achetaient jamais de pain. Il est vrai que son pain est plutôt fade. Je me souviens de Célestin Bessé, de Gustave Bertrand, d'Alfred Courcel, de Hippolyte Petit, de Clément Van der Hout, des noms attrapés au hasard le long du long mur, le long du Père Lachaise, sur tous les soldats morts en 1914, 1915, 1916, 1917, 1918. En fait, non, je me souviens pas de leurs noms. Je les ai piqués en passant, mais sinon, qui se souviendra qu'il y a 100 ans, on a sacrifié des jeunes de 20 à 30 ans? Pourquoi ?
Poi, 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 on part à Gaza, bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Poi, 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 le Hamas, c'est des barbares. Nous, on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir. Poi, 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 on a visé l'hôpital. C'est par humanisme, pour que les blessés, plus jamais mal. Poi, 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 j'ai entendu du bruit. Désolé si j'ai tiré, j'ai cru que c'était une rêve partie. Poi, 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 on a coupé l'eau courante. On va vous doucher, on a pas le mot phosphore à l'essence. Poi, 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 vous êtes dans des tunnels. On va les gazer et sceller les portes à la truelle. Poi, 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 nous on fait pas d'otage. À part 2 millions à ciel ouvert derrière du haut voltage. Poi, 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 mais vous pouvez prendre la fuite. Promis, vous reviendrez en même temps que les réfugiés de 48. Poi, 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 on a détruit vos maisons. On en reconstruira des mieux quand s'y installeront nos colons. Poi, 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 on était là il y a 2000 ans. T'as qu'à retourner en Espagne où vous étiez il y a 1000 ans. Poi, 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 Dieu est dans notre camp. La preuve, j'ai jamais vu un rabbin qui était musulman. Poi, 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 nous c'est pas pareil. On était terroristes, mais contre les Anglais, pas Israël. Poi, 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 eux c'était des colons. Ça n'a rien à voir, nous on est chez nous, on a raison. Poi, 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 le Hamas c'est fini. Jusqu'à ce que leurs enfants soient grands et de haine remplis. Poi, 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 critiquer Netanyahou. C'est antisémite, c'est anti-France, c'est pas bien du tout. Poi, 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 la paix maintenant et Free Palestine. C'est antisémite, djihadiste et islamo-fasciste. Poi, 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 votez LFI. C'est antisémite, pas une opinion mais un délit. Poi, 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 ballon d'or à Benzema. C'est antisémite, faut le donner. Et Adolev Aziza, poi poi poi, les chansons de Vaquette, c'est antisémite, hein. Poi poi poi, avoir été contre l'apartheid, c'est du racisme anti-blanc. Ah non, merde, non, là c'est pas pareil. Poi poi poi, on part à Gaza, bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Poi poi poi, le Hamas c'est des barbares, nous on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir.
Radio Libertaire 89,4 MHz de Sud-Seine, magazine de réarmement théâtral, donc, puisque Moa a aujourd'hui des invités, ce me semble, pour parler théâtre. Moa, je te laisse entamer avec une lamelle métallique qui fait du bruit quand on la fait vibrer.
Voilà. Donc, je vous présente mes invités, et à commencer par donc Monsieur Joseph Laurent.
Bonjour.
Voilà, qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être là avec ses comédiens et son auteur également. Donc, ils vont se présenter tour à tour, et puis on commencera à parler de leur pièce qui s'appelle « Puisque tu pars ».
Oui, exactement.
Au théâtre Essaillon.
Au théâtre Essaillon. Bonjour, moi c'est Joseph Laurent, je suis metteur en scène et professeur de théâtre, principalement.
D'accord. Et alors, donc à propos de cette pièce, pourquoi tu...
Alors, puisque tu pars... comment je me suis retrouvé sur le projet ? Ça vient de... les deux frangins qui sont à côté de moi, de l'auteur Quentin Martin Laprade et surtout de Gaspard Martin Laprade, qui est un de mes élèves et qui a fait une commande à son frère de créer une pièce pour lui et Bruno Bayeux. Bruno Bayeux qui n'est malheureusement pas là, mais...
Il n'est pas venu.
On pense très fort à lui. Et Bruno Bayeux et Gaspard sont venus me voir pour les mettre en scène.
Super, super, ouais. Très bien. Et alors donc, on revient... à notre ami l'auteur qui se présente aussi.
Alors, je suis Quentin, donc le grand frère de Gaspard. Et je suis l'auteur de « Puisque tu pars », que j'ai écrite pour mon frère et son parrain de théâtre Bruno. Voilà.
Et d'où est venue cette idée d'écrire cette pièce ?
C'est à la demande de Gaspard qui voulait jouer un texte écrit pour lui et surtout pour son alchimie naturelle avec Bruno. Pour mettre à l'honneur leur relation, leur complicité sur scène et hors scène. Et donc je l'ai écrite en les connaissant bien tous les deux, en sachant ce qui les faisait rire, mais aussi ce qui les intéressait de jouer de nouveau selon leurs registres respectifs. Donc
une écriture sur mesure.
C'est ça, exactement.
Exactement.
Alors, donc...
moi, c'est Gaspard Martin Laprade, j'ai 17 ans et... Et je suis comédien, enfin en tout cas j'espère le devenir. Et j'ai rencontré Bruno Bayeux quand on jouait tous les deux dans la pièce Richard III au théâtre de l'Odéon en 2016. Et depuis on est restés amis et j'ai voulu faire une pièce avec lui. Et comme je savais que mon frère était aspirant scénariste, enfin qu'il aimait beaucoup écrire de la fiction, etc., je lui ai dit c'est l'occasion. Écris-nous une pièce et puis on la jouera à Avignon en 2023. C'est le deal, c'est le pacte. C'est le défi. Et donc j'ai appelé Joseph pour nous mettre en scène et l'aventure a démarré.
Donc c'est toi qui as déclenché tout ça finalement ?
Un peu, ouais, c'est un peu moi.
C'est extraordinaire. Et donc tu y pensais depuis très longtemps ?
L'idée est venue en 2022, début 2022, et un peu en discutant avec Joseph d'ailleurs.
Ah.
Je crois qu'on s'était dit qu'on aimerait bien faire Avignon avec Bruno. Et Joseph avait dit, écoutez, si vous avez un texte, je suis partant pour vous suivre dans l'aventure et de vous mettre en scène. Et donc, il a fallu mettre un petit coup de pied au cul de mes frères.
Coup de pied au cul.
Super, non. Super. Et donc, vous avez été un petit peu soutenu, aidé, tout ça, encouragé?
On a eu beaucoup de chance d'être soutenu par nos parents. Nos parents déjà qui acceptent nos choix de vie, comédiens, scénaristes, et qui sont vraiment auprès de nous et qui sont nos premiers fans. Voilà.
Mais c'est pas eux les producteurs, si ?
En partie quand même.
Ils ont aidé.
On a tout ceci est très indépendant. On est parti un peu comme ça, sur le coup.
Ils ont pu payer tous les salaires et tout.
Alors, on a collaboré aussi avec la compagnie de Bruno, qui s'appelle la Bruno Bayeux Compagnie, très humblement. Et qui nous a aidés aussi pour les salaires, etc.
Voilà. D'accord. Et alors, par rapport à la mise en scène ?
Eh bien, par rapport à la mise en scène, tout simplement, Quentin a écrit un road trip initiatique et un road trip au théâtre. Et on avait la condition d'un théâtre avec un plateau de 3 mètres sur 4 mètres. Donc, on était un petit peu limité. Donc, on s'est dit, on va essayer de créer une pièce avec Gaspard, Quentin et Bruno, avec simplement deux chaises et des lumières, tout simplement.
D'accord. Et alors, cette histoire de Goldman, d'où elle est venue ?
Ah, Quentin, peut-être.
Alors oui, alors c'est une vaste question. En fait, à l'origine... je me rapproche du micro, pardon. À l'origine, j'avais l'idée de ce personnage joué par mon frère Gaspard, qui s'appelle Gaspard aussi, très misanthrope et en marge de sa génération, et je voulais lui donner comme objectif de partir voir une icône, un petit peu un symbole d'une époque révolue, de la musique, et donc qui aurait chanté des grands idéaux. Voilà. Et à l'origine, je pensais à des stars plus anglo-saxonnes. Je me disais David Bowie, voilà, c'est un côté un peu iconique, très très mythique, mythologique presque. Et au final, Jean-Jacques Goldman est revenu un peu par hasard parce que on a eu l'idée d'une réplique pour Bruno qui serait « Ah, puisque tu pars, mon neveu, je pars avec toi. » Et donc, on a pensé « Ah, mais c'est « Puisque tu pars », la chanson de Jean-Jacques Goldman, c'est marrant, ça colle. » Et en fait, en réécoutant, il se trouve que ça collait plutôt pas mal thématiquement avec beaucoup de choses qui se passent dans la pièce. Et on s'est dit « Mais en fait, Jean-Jacques Goldman est plutôt adapté pour ça. Il parle de beaucoup de thèmes qu'on aborde, la relation aux autres, l'envie de voir ailleurs, de liberté, d'aventure, tout ça. » Un petit peu de côté rêve américain à la française, qui était assez intéressant. Et on s'est dit, en fait, ça colle bien. Il y a un aspect un peu décalé, humoristique, forcément, parce qu'un jeune de 17 ans de nos jours qui veut aller voir Jean-Jacques Goldman, c'est drôle. Mais en même temps, ça colle
et
bien.
Et pourquoi c'est pour le rock ?
Oui, c'est le côté
rock.
Ça
parle pas mal de rock, drôle.
Oui. oui, c'est un esprit qui me parle beaucoup, qui, je trouve, reste... Oui, un esprit de liberté, en fait, qui parle à toutes les générations. Donc, ça réunissait bien les deux personnages aussi, qui ont envie d'aventure, quoi.
D'accord. Bon, on se retourne vers Nicolas, qui va nous envoyer quelque chose de sympathique.
Ah à ce moment-là, moi, j'envoie la chanson de Goldman, quand même.
Voilà, par exemple.
Ouais, carrément.
Carrément.
Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver. Parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. Sous-titrage Société Radio-Canada.
nos armes, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur, puisque ta maison aujourd'hui c'est l'horizon dans ton exil.
Non, c'est vrai que quand je me suis dit, je vais aller chercher sur internet après la pièce, je tape puisque tu pars, et comme je rajoute pas théâtre de l'Essaillon, comme toute personne qui se dit, je vais essayer de réserver une place pour le spectacle, on se retrouve avec d'abord comme référence la chanson de Goldman. Juste avant, quand même, une petite question. Il y a un truc qui ne colle pas dans ce que tu dis, Gaspard Martin Laprade. Tu me dis, j'ai 17 ans. Tu nous dis, sur scène, en jouant Richard III en 2016. Mais, t'as commencé à jouer au théâtre avant même d'être né ou...
j'ai joué à l'Odéon, j'avais 9 ans, ouais. Et c'est une belle porte d'entrée pour découvrir le théâtre, je confirme. Ça m'a donné le goût de ça, et c'est beaucoup grâce à cette expérience que j'ai envie de faire ça de ma vie, et j'oublierai jamais les soirs à l'Odéon, les tournées, après, les rencontres, tout ça.
Mais tu jouais pas Richard III quand même?
Je ne jouais pas Richard III, je jouais ses neveux, un de ses neveux qu'il a assassiné.
Ah, le rôle était court ou long alors?
Le rôle était long parce qu'on revenait en fantôme à la fin.
Et alors, et tes parents, comment ils ont réagi par rapport à tout ça?
Mes parents ont toujours soutenu, ont toujours été à fond. C'est grâce à ma mère que j'ai passé des castings. J'ai commencé en faisant de la figuration dans une pièce d'Angelica Lidl à l'Odéon. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par la suite, j'ai pu passer d'autres castings pour Richard III avec Thomas Joly. Et après, d'autres pièces à l'Odéon avec Guillaume Vincent, notamment.
Parce que là, je vois que tu as fugué quand même de chez toi, pour aller justement voir cet imaginaire retour sur scène de Jean-Jacques Goldman. Tu es aussi suffisamment fan à ce point-là?
Mais c'est un personnage, ce n'est pas moi. Oui, c'est vrai que la frontière est un peu floue entre la fiction et le réel, parce que le personnage a vraiment 17 ans et il s'appelle Gaspard, donc évidemment ça peut brouiller un peu les pistes. Mais c'est bien de la fiction.
Quand même.
Mais sinon, toi-même, tu chantes du rock, tu...
J'écoute vraiment de tout. Et c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur la pièce, j'ai beaucoup réécouté tout Jean-Jacques Goldman.
Ouais.
Et j'ai découvert beaucoup de chansons qui sont assez peu connues. Quand on pense à Jean-Jacques Goldman, les gens pensent pas souvent au plus rock, au plus blues, au plus belle. Parfois ils s'arrêtent aux plus mainstream, qui sont à mon avis pas forcément les plus intéressantes.
Mmh. Ok, Nicolas.
Moi, j'ai l'intro de la pièce, c'est ça? Ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce morceau que vous avez qualifié d'intro?
C'est vraiment le tout début de la pièce. C'est... À la base, c'est le monologue principal, le monologue du début de Gaspard, que Quentin a écrit. Et on a décidé, on a fait le choix.
On a pris le parti pris de l'enregistrer, en fait.
Mmh.
Voilà. C'est ça. Et on a décidé peut-être de vous faire écouter, parce que comme ça, ça vous spoil pas trop toute la pièce, mais ça vous met tout de suite, on va dire, la... Comment je peux dire? La le première ton, note, peut-être. Le ton. Ouais, mmh. Le ton.
Ah oui, mais alors là, vous me niquez une de mes questions habituelles qui est, j'arrive dans la salle, le noir se fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe ça, finalement.
Voilà.
J'ai fini de rédiger ma lettre d'adieu. Ça m'a pris du temps parce qu'au début, j'ai essayé de prendre des gants, d'amortir le coup. C'est pas vous, c'est moi. Vous allez me manquer. Toutes ces conneries. Quoi que je fasse, ça sonne creux. Évidemment que c'est dur de dire à ses parents qu'on les trouve parfaitement insipides, tout en douceur. J'ai jamais aimé les autres. J'ai essayé, mais j'ai toujours trouvé mes congénères bruyants. À brailler pour rien dire, comme un Larsen. Persistant, vide de sens. Qui vrille les tympans, qui monte au cerveau et qui...
Il est 17 ans et il sait toujours pas où est le tire-bouchon.
Qui devient juste insupportable. Le seul foyer que je me sois trouvé, c'est la musique. J'aime pas les autres. Et je veux pas les aimer. Tout ce que je veux aimer, ce sont des disques, des principes et des horizons d'une époque enterrée. Et je suis fait pour vivre seul. Si jamais je suis même fait pour vivre.
Eh, mais vous me faites flipper là, parce que cette idée... j'ai écrit ma lettre d'adieu, le thème de « Je pars ». Moi, ça m'évoque « Mes chers parents, je pars », la chanson de Sardou qui a été mal comprise à son époque. Et je suis désolé, mais je bosse avec des jeunes. Et quand un jeune écrit, dit « Je fais ma lettre d'adieu, je pars », je ne sais pas de quel départ il s'agit. C'est la pièce.
Alors, l'auteur.
Ah bah oui, c'est sûr, c'est un peu une ambivalence. Et évidemment, on joue pas mal avec ça... à se demander qu'est-ce que Gaspard va chercher, ce genre de choses. Bon, après, pour savoir comment ça se passe, il faut venir voir la pièce, j'ai envie de dire. Mais oui, il y a clairement une idée de couper les ponts, et on se demande, s'il veut être tout seul, qu'est-ce qu'il va faire. Bon, je vous rassure, toute la pièce n'est pas forcément sombre dans ce ton-là, pas du tout même. Mais il y a beaucoup de questionnements existentiels sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qu'on trouve dans la vie, la beauté qu'on trouve dans les autres, dans le quotidien, dans le fait de courir après quelque chose, courir après des rêves. Donc forcément, oui, c'est un sous-ton, je dirais, qui est important, qui est volontairement inquiétant au départ, mais qui après s'allège un petit peu quand même.
Et on arrive à rire quand même.
Ah oui, grâce à Bruno beaucoup, mais aussi avec Gaspard, et j'espère qu'on rigole bien.
Ouais, absolument, le public rit pas mal.
C'est toute la force de cette pièce. Ça a l'air d'être un drame quand on écoute ce premier monologue dès le début de la pièce, mais ça reste une comédie dramatique avec beaucoup de passages où on rit, où justement le personnage de l'oncle, un quarantenaire musicien un peu raté, un peu qui aime bien l'alcool, on peut dire aussi, nous permet d'alléger tout ça. Et en même temps, dans cet allègement, on peut entendre des souffrances. J'en dis pas plus.
Et alors, vous vous connaissiez déjà avant, avec Bruno? Comment ça s'est passé?
C'est ce que je disais, on s'est rencontrés du coup sur Richard III. J'avais 9 ans, lui, je vais pas dire son âge.
un peu plus vieux.
Et il avait la quarantaine?
Oui, voilà, c'est ça. Oui, en plus.
Oui, ça doit être ça.
Et donc depuis, on est resté très proche, en contact. Je l'ai invité à jouer dans quelques courts-métrages. Et puis...
Des courts-métrages que tu as écrits?
Que je réalisais quand j'avais 13, 14, 15 ans.
Eh bien, dis donc.
Parce que ce que tu ne sais pas, moi, c'est que Gaspard est un petit génie et un touche-à-tout. Mais pas un touche-à-tout médiocre, un touche-à-tout bon. C'est-à-dire qu'il fait des courts-métrages, il joue, il fait de la musique, il chante, il a sorti récemment un album. C'est un ado pas ordinaire par rapport à l'époque. C'est pas l'ado qui va rien faire de ses journées, qui va rester sur TikTok ou Instagram, même s'il aime bien Instagram. Mais voilà, il va être toujours dans la création.
Oui, j'aime bien toucher à tout. C'est pour ça aussi que j'ai voulu apporter ma touche aussi dans la création musicale du spectacle. J'ai composé les ambiances sonores et tout ce qui...
Tu joues un instrument également?
J'ai une formation de batteur, mais je suis plus batteur, je fais plus du tout de batterie. Mais en revanche, je sais maîtriser la musique assistée par ordinateur. Je pianote un peu, synthé, guitare, basse. Je suis très mauvais, mais je sais me débrouiller sur quelques...
T'arrives à faire des percussions sur les joues?
Vous voulez une démo?
Essaye, moi.
Hyper bien fait, je suis impressionné.
Moi, Gaspard zéro.
Super, très bien. Et donc, tu comptes donner plus de priorité à la musique, ou au théâtre, ou la danse, ou au chant?
Non, quand même le théâtre, quand même le théâtre, parce que...
L'interprétation, quoi.
Oui. Au théâtre, au cinéma, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Après, je vais continuer à faire de la musique parce que ça m'éclate et parce que j'aime faire ça avec des amis et que c'est un autre moyen de m'exprimer. C'est un peu différent. Mais j'aimerais vivre du théâtre, oui, du jeu.
C'est pas facile.
C'est pas facile.
Tu es devant toi un intermittent du spectacle à la retraite. Je sais de quoi je parle. Et donc l'auteur, est-ce que tu comptes continuer à écrire, à créer dans ce sens-là ou...
Oui, moi c'est vraiment écrire qui me plaît le plus. Alors pas nécessairement que dans le théâtre, là je me forme surtout pour le cinéma parce que ça me parle beaucoup comme écriture. Le cinéma, les séries, tout ce qui est un peu audiovisuel. Mais je me dis que j'ai la chance de chercher une branche dans laquelle... Il y a toujours quelque chose d'intéressant à raconter sous plein de formes, que ce soit cinéma, théâtre, séries, même littérature, des jeux vidéo, beaucoup de choses en fait.
Mais plutôt dans le comique ou dans l'historique ou...
Ah, bonne question. J'ai pas vraiment de genre de prédilection pour le moment, je pense que je me cherche encore. J'aime bien mêler un peu de tout, surtout je pense que tout le monde s'accordera sur le fait que le meilleur comique, c'est quand il est un peu dans le dramatique. Donc le meilleur dramatique est... meilleur quand il y a un peu de comique aussi qui relève. Enfin, c'est une nuance avec laquelle j'aime bien travailler. Donc, ça pour le ton, ça à voir. Après, pour le genre, j'aime bien écrire de tout et des histoires qui diffèrent bien les unes des autres, même si j'ai des thèmes un peu de prédilection.
Est-ce que tu prends des positions politiquement ou de façon engagée?
Alors, pas du tout. J'avoue que je suis assez peu enseigné, que c'est pas quelque chose qui me parle énormément, la politique. Je me dis que c'est quelque chose d'intéressant à regarder, à étudier, parce que ça dit des choses sur des personnages, bien sûr, et les situations. Personnellement, j'ai pas de revendication ou quoi que ce soit, et je me dis, je préfère juste parler de personnages qui vivent des choses, et les gens après s'en font leur interprétation, leur message, mais voilà, c'est pour ça que j'aimais bien aussi Jean-Jacques Goldman pour la pièce, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt restreint sur ses positions politiques, et qui a un côté un petit peu observateur de son climat, de choses comme ça, qui chante des réalités, mais sans jamais vraiment prendre une position. Et ça le rapproche pas mal de... Alors là, on peut s'opposer à ce que je dis, mais Bob Dylan, un petit peu, en tout cas, j'avais lu quelque chose dans son autobiographie chronique, où il disait que, en fait, lui, à la base, n'a jamais eu pour vocation de revendiquer quelque chose, ou de démarrer un mouvement, en fait. Il est devenu, un peu malgré lui, le héros des mouvements sociaux aux États-Unis dans les années 60, mais qu'en fait, il chante des choses qui lui tenaient à cœur sans jamais cette vocation de bouleverser tout. Après, bon, évidemment, Bob Dylan a eu l'influence qu'on lui connaît, mais j'aime bien cette idée que l'artiste est un peu un chroniqueur de son époque, de son climat, qui chante des choses qu'il pense et qu'après les gens les érigent en peut-être en fer de lance de mouvements politiques, etc. Mais que c'est pas forcément l'idée de base, je dirais.
D'accord. Voilà. Tu es quand même sensible à tout ce qui se passe actuellement, les guerres qui nous entourent, les massacres.
Oui, on a beaucoup d'échos qui nous arrivent et c'est assez dur de se faire une vision claire parce que c'est toujours par le prisme de médias, etc. Donc c'est toujours des points de vue en fait qui nous sont rapportés, donc c'est compliqué de se faire une opinion. J'avoue que j'essaie d'avoir une perspective plutôt à mon échelle des choses, mais
tu donnes plus la priorité aux comiques, aux
comiques, je sais pas, j'ai pas vraiment de priorité. Non, je m'intéresse un petit peu de loin aux échos que j'ai, mais voilà.
Tu te souviens du premier texte que tu as écrit et où tu t'as présenté ça à quelqu'un et tu t'es dit, mais ouais, j'arrive à faire passer des sentiments, j'arrive à faire ressentir ce que à manipuler les gens, peut-être même à les emmener quelque part.
C'est une question intéressante et je dirais que les tout premiers textes qui m'ont fait un peu ça, c'est ceux que j'ai peut-être fait lire à mon frère ou que je lui ai expliqué justement quand on était très jeune et où je me disais, où Gaspard était intéressé par les histoires que je lui racontais, ce genre de choses. Mais en fait, la seule vraie expérience que j'ai eue de mes textes qui touchent vraiment les gens, c'est Puisque tu pars en fait. C'est la première expérience comme ça parce que c'est la première pièce que j'ai eu la chance de voir montrer à un public, mais surtout un public que je ne connais pas, donc qui n'est pas biaisé. C'est pas ma famille qui juste se dit c'est super mon chéri ou ce genre de choses. C'est vraiment des inconnus que je vois pleurer en sortant de la salle ou que j'ai entendu rire aux éclats pendant toute la séance. Et donc ouais, c'est le premier texte qui m'a vraiment fait me dire peut-être que je fais ce métier pour une bonne raison, parce que ça touche les gens et je suis pas un illuminé qui s'imagine être un artiste ou quoi, alors que en fait ça ne parle à personne quoi.
Donc aller saillant, t'es allé te foutre dans la salle pour guetter. T'aurais bien aimé être sur la scène pour voir les gens de face.
Ah c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Ça a commencé à Avignon, bien sûr. C'est là, ça a été le premier électrochoc un petit peu, parce que vraiment c'est des inconnus, c'est des gens qui viennent là complètement au hasard. Donc ça m'a fait un petit peu cet effet-là. Mais c'est vrai qu'à l'essayant, maintenant je commence à avoir l'habitude, donc je peux mieux sentir ce que ressentent les gens sur le moment, je dirais. Parfois je regarde un petit peu mes voisins, voir comment ils rient, à quoi ils rient. Souvent on entend aussi qu'ils se contiennent. Et à un moment où il y a une blague qui les fait rire, ils rient un peu dans leur barbe, mais on sent qu'ils se retiennent parce qu'il y a une pudeur un petit peu, ils n'osent pas rire aux éclats au théâtre. Mais c'est bon de se dire, cette petite blague vraiment cachée dans le texte, un peu ciselée, il y en a un qui l'a capté, qui a rigolé. Et limite, je pense que le rire des gens me touche plus que les larmes avec la pièce. Je suis plus content d'entendre quelqu'un qui rit que voir quelqu'un qui pleure en sortant, quoi.
T'as réécrit des trucs depuis la première représentation en leur disant « Là, finalement, c'est pas bon » ou eux-mêmes t'avaient dit ça et faut...
Oui, ça a été un processus très intéressant et qui s'est fait tout au long, notamment pendant Avignon. Parce que déjà, le premier jet que j'avais envoyé à Joseph, Gaspard et Bruno était extrêmement touffu, beaucoup trop long. C'était vraiment quelque chose un peu fait à l'arrache. Et Joseph, Gaspard et Bruno ont fait des coupes plus que nécessaires à certains endroits. Mais aussi, il y a eu beaucoup d'écriture de plateau parce que Bruno fait beaucoup d'improvisation, notamment. Et je lui ai en fait fait un peu un tremplin où je me suis dit, là, je sais que Bruno va être inspiré, il va faire des trucs drôles. Donc il y a quelques trucs qui sont comme ça, qui sont un peu réécrits aussi au fil du temps. Et surtout, en voyant la pièce pour la première fois, je me suis dit, là, bon, personne l'entend, mais il y a une répétition, c'est maladroit d'avoir deux fois le même mot à deux répliques d'intervalle, ou ça serait plus drôle si je le tournais comme ça, si machin. Donc il y a eu quelques petites réécritures, oui.
C'est ça qui est génial avec le spectacle vivant, c'est que l'œuvre en elle-même est en perpétuel changement.
Qu'est-ce que vous avez coupé, en fait,
dans le texte ? Oui, je voulais, façon couve de Charlie, les couves auxquelles vous avez échappé, la scène, l'acte auquel vous avez échappé.
Oui. Je sais pas trop.
qu'est-ce qu'ils ont coupé, les deux salauds, là, en face de toi ?
Si, ils ont coupé beaucoup de... Il y avait des très longues tirades.
30 pages, on a coupé.
Il y avait beaucoup de passages où mon personnage expliquait son plan très précisément, très explicitement, et on s'est dit que finalement, en fait, le spectateur n'en avait pas spécialement besoin de toutes ces indications.
C'était un petit peu, des fois, explicatif. Et c'est vrai que
aussi beaucoup de, il y avait beaucoup de références philosophiques, il y en a encore dans la pièce, mais c'est vrai qu'on les a un petit peu allégées pour...
C'est plus digeste comme ça.
C'est plus digeste, voilà.
Mais oui, il y avait beaucoup de ça, parce que j'avais beaucoup, comme encore une fois, je n'avais jamais confronté un texte à un public, je me disais, faut que je les prenne par la main, faut que je leur explique, peut-être un petit peu infantilisant pour le public, mais je voulais qu'il n'y ait pas de faille de cohérence, qu'on y croit vraiment, que sur scène il y ait un gamin qui parte et qu'il n'y ait pas de trou dans le scénario, on se dit, ah mais c'est pas logique, comment ça se fait qu'il arrive là, machin. Donc j'avais expliqué limite minute par minute en calculant les trajets pour qu'il y ait quelque chose de cohérent, et beaucoup de rêves philosophiques, quoi, effectivement, côté un peu dissertatoire. Qui n'est pas digeste au théâtre, donc c'est bien qu'on l'ait coupé. Je crois qu'on a gardé que l'essentiel et les références les plus parlantes et importantes. Quoi.
Mais le spectateur apporte aussi son propre bagage. Et est-ce que tu as vu des gens partir dans, pas ton histoire, mais leur histoire? Et finalement, elle est pas mal non plus comme pièce.
c'est vrai qu'il y en a, eu plusieurs, des gens qui se font un peu leur interprétation.
Rien que le début, Quentin, en fait. Je me rappelle de quelques spectateurs à Avignon qui, justement, suite à ce premier monologue, il y en a, ils voient un ado qui a envie de fuguer parce qu'il ne se sent pas bien dans sa peau, et il y en a, ils voient un ado suicidaire. Mm-hmm. Après, nous, on a notre interprétation.
Ah, chacun là.
Chacun, voilà. Mais rien que ça, déjà, ce n'est pas la même chose.
Oui, ce n'est pas forcément le même point d'entrée dans la pièce, quoi, forcément. Et il y a des gens, alors, j'ai plus les souvenirs en tête, mais il y en a qui vraiment se font un peu leur propre théorie, et c'est très drôle de voir qu'ils remodèlent un petit peu comme ça l'histoire. Je crois qu'il y en avait même qui nous ont dit, je sais plus si c'était une blague qu'on nous a faite ou pas, mais quelqu'un qui s'imagine, en fait, Bruno n'est pas son oncle, mais Gaspard du futur qui vient reparler à lui. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait ce truc-là, mais c'était peut-être une blague.
Ça devait être une blague, voilà. Sûrement.
Mais bon, ça peut être ouvert à toutes les lectures possibles, et c'est ça qui est drôle aussi, de voir comment les gens...
Est-ce que les parents sont venus voir le spectacle?
Ah oui.
Quelle question.
Ils en ont bouffé.
On ne peut pas s'empêcher de penser à ça.
Oh, je crois qu'ils ont dû le voir une bonne vingtaine de fois.
En fait, les fois où ils ne sont pas venus, c'est que la salle était complète.
D'accord.
Je peux vous confirmer.
Et qu'est-ce qu'ils en pensent alors, finalement?
Ils n'aiment pas.
Oh.
Non, je plaisante. Non,
ils adorent. Bah écoutez, jeudi soir, mon père a réussi à être ému à nouveau.
Uh-huh.
Il m'a dit, ça m'a beaucoup touché. Il m'a dit que ma prestation l'avait particulièrement touché ce soir-là, et que en fait il voit encore des nouvelles choses à chaque fois.
Je pense verser quelques larmes.
Je sais pas.
Il pleure pas beaucoup, mais ouais. Non, mais c'est intéressant parce que pareil, c'était la première fois en fait que nos parents, pas voyaient Gaspard sur scène parce qu'ils l'ont déjà vu beaucoup, mais moi lisaient quelque chose que j'avais écrit. Et je me souviens que notre père a été assez secoué. Il s'est dit, ah ouais, mais c'est vraiment ce que vous pensez? Parce que forcément, avoir un gamin comme ça, joué par son fils, qu'à l'âge de son fils...
Avec les mots de son autre fils.
C'est ça.
Avec le prénom de l'autre
fils. Oui.
Et la maman, alors?
Et ben, elle fait plus la distinction entre fiction et réalité. Mais lui, il a été un peu secoué et s'est dit, est-ce que mes fils veulent me faire passer un message? Est-ce qu'ils sont pas bien dans leur vie et tout, comme Gaspard, alors que pas du tout? Mais notre mère était avait du recul, et je pense qu'on a beaucoup de chance parce qu'elle a reconnu que la pièce était bien, elle était contente de nous encourager là-dedans. Quoi. C'est pas juste par principe j'aide mes fils parce que c'est mes fils, c'est vraiment une œuvre dans laquelle je crois, enfin une œuvre, bien grand mot, mais c'est un spectacle dans lequel je crois. Et,
elle a donné sa bénédiction.
Voilà.
ils ont eu un tarif réduit, non, juste pour pouvoir aborder le. Les tarifs, c'est combien, oui. Et c'est à quelle heure, etc. On oublie toujours ces détails-là ici, dans cette émission.
Alors, c'est tous les mercredis, les jeudis, au Théâtre de l'Essaillon, à 21h. Et au niveau des tarifs, c'est une très bonne question. Je crois qu'on tourne autour de la vingtaine d'euros.
Oui.
Il y a des tarifs réduits.
J'aimerais aussi dire que pour les jeunes qui ont le pass culture, vous pouvez avoir des prix extrêmement avantageux à 12 euros sur le pass culture pour venir voir du théâtre. Voilà, c'est...
Et alors, dans les milieux scolaires, est-ce que vous comptez jouer aussi?
On a eu des classes théâtre à Avignon, notamment. On a fait des rencontres avec des classes. Il y a beaucoup de profs aussi qui sont venus, qui ont été très touchés avec des classes. Il y en a encore qui vont venir, on l'espère. C'est vrai que c'est un spectacle qui parle beaucoup aux jeunes, oui.
C'est ça, on pense que c'est plutôt bien pour connecter les générations, mais surtout... Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le vends à mes anciens professeurs, c'est que, comme il y a beaucoup de philosophie et que, bon, il y a des citations, mais il y a surtout, en fait, des réflexions que n'importe quel adolescent peut se poser à 17 ans, en fait, c'est propice pour intéresser les jeunes, peut-être, à ce genre de questionnement. En fait, c'est ce que fait la philosophie. Et, toute la pièce, c'est un petit peu pas des dissertations, mais c'est de la dialectique entre ces deux personnages qui ont des points de vue opposés et qui se disent « Ah oui, mais tu me dis ça, mais moi je peux te dire que ça en fait », et change de point de vue et voilà. Donc pour les professeurs de philo, les classes de philo, surtout pour ceux qui passent le bac comme Gaspard à 17 ans, ça peut être un moyen en fait, de se dire « C'est pas hermétique, c'est pas quelque chose de stérile en fait, et d'aride ». Et n'importe qui se pose des questions sur la vie, la mort, l'amour, la société, tout ça quoi.
Donc, ah, l'amour, oui. Au fait, oui, il n'y a pas de nana dans l'histoire.
Et non, parce que déjà, personne, aucune nana ne va jouer avec nous.
non. Pourquoi ?
Non, c'est une blague.
C'est très masculin ?
Pas spécialement, bon, les deux sont ensemble. Je me suis dit que c'était pas forcément propice, j'aime pas mettre des histoires d'amour juste pour en mettre. Là, je me suis dit que c'était pas approprié et que...
Mais c'est une histoire d'amour juste différente.
Oui, c'est une autre forme, c'est de l'amour du coup bah, familial, parce que c'est un oncle et un neveu qui se découvrent un peu. Et ça tourne beaucoup autour de la question de l'amour, ce qui est de vraiment aimer les gens ou vouloir être seul. Et le fait que aimer les gens, c'est aussi s'exposer à des blessures. Il y a un dialogue des deux qui est centré sur l'amour. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est juste des compromis? On se contente de cohabiter avec d'autres personnes.
Attends, arrête, on va leur demander un extrait justement.
Ah bah,
cette scène-là, par exemple. Au pied levé. Allez, tonton, filleul.
Alors.
On n'a pas le tonton, t'as le monologue
j'ai pas
de l'amour.
Le tonton, mais je peux vous faire le monologue de l'amour.
Tu te sens?
Ah oui, le monologue, il est bien.
Alors, bah, moi je pense que les gens se mettent ensemble parce qu'ils ont peur d'être seuls, parce qu'ils aiment le sexe aussi, mais se mettre avec quelqu'un, ça veut forcément dire montrer un visage parmi d'autres, et intrinsèquement s'amputer d'une part de soi. On joue un rôle, et même s'il est perfectionné, ça peut rester qu'une mascarade dictée par des préconceptions. On doit être comme ça en couple, on doit être comme si en famille ou avec les amis, faut pas dire je t'aime trop tôt ou trop souvent parce que bah, ça se dit pas, mais faut le dire quand même.
Tu peux nous dire un petit extrait de la pièce ?
Oui, c'était ça.
Je suis en train...
c'est l'extrait, là.
Ça me touche beaucoup.
C'est ça, c'était...
Il était en train de vous faire l'extrait de la pièce, avec le monologue.
Ouais.
Mais il l'a introduit de manière très
d'accord.
Subtile.
D'accord. Parce que je n'avais pas retrouvé le...
Ah oui, il change l'intonation. Enfin, voilà.
Tu voulais la suite, Nico?
Non, mais c'est vrai que j'ai été surpris aussi par le côté. Le débit est là, ça vient. C'est une conversation avec un jeune. Et il y a pas. Il y a ce mur du théâtre, mais là, comme ça, tu passes.
La pièce est écrite aussi de manière à ce qu'elle puisse être, on va dire. Produite, si on peut le dire, montée en cinéma. Donc c'est vrai que les dialogues sont assez naturels et que c'est des discussions philosophiques sur différents thèmes, dont l'amour, entre un jeune et un...
Et son oncle.
Et son oncle.
Oui, mais vous pourriez démarrer ça dans le théâtre, quasiment là où les gens attendent. On se dirait, bon, ben, y en a deux qui discutent, là...
C'est vrai, oui, ça aurait pu être une idée. Bon, la forme de la pièce s'y prête pas forcément, mais oui, on a envie d'avoir cette proximité, je pense, avec le public, et que les gens se sentent investis et qu'ils se disent, je pourrais avoir cette conversation avec un ami ou un membre de ma famille ou quoi que ce soit.
Et ça fait réfléchir les gens. Les gens démarrent des conversations après, échangent, et c'est le but, c'est le principal.
Oui, moi j'ai des copains qui se sont dit après, mais toi du coup t'es plus Gaspard ou t'es plus Bruno vu tes positions sur la vie? Il y en a qui disent, ah ouais, moi j'ai hyper peur de la mort donc je suis complètement Bruno, j'en ai marre des gens donc je suis Gaspard, enfin c'est comme ça.
Donc vous êtes prêt à vous déplacer dans les lycées, dans les collèges et tout ça?
Oui, non?
Ah bah oui.
Oui,
partout
on parce qu'il faut lancer l'appel...
Ah, écoutez,
au ministère de l'Éducation nationale, tout ça.
On se déplace où vous voulez. On a deux chaises, une rampe LED, et puis
voilà.
Deux rampes LED.
Deux rampes.
Et puis
vous
c'est
pouvez
parti.
Jouer dans n'importe quelle salle.
Oui, complètement.
Plus ou moins,
ouais. Justement, comme on avait cette contrainte d'Avignon avec un petit théâtre, un petit plateau, avec pas beaucoup de lumière, on a pris le parti pris d'avoir juste deux chaises et deux rampes de lumière. Donc c'est vrai que c'est adaptable dans différentes salles et différents lieux.
D'accord, ouais. D'accord, très bien. Bon, ben un peu de... Une petite chansonnette, un petit...
Mon enchaînement était prêt tout à l'heure, quand Quentin, tu faisais référence à Bob Dylan, mais ouais. Donc on va réembobiner l'émission, on va lancer un petit Zimmerman.
Come gather round people, wherever you roam,
and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Radio Libertaire 89,4 MHz, Bob Dylan. De Dylan, j'aurais pu passer Knocking on the Heaven's Door, parce que comme ça, ça m'aurait permis de demander c'est quoi fait la bise à Belzébuth quand on descend.
Les recherches.
C'est un court-métrage que j'ai fait en 2022, un petit film de genre. Je voulais m'essayer à ça, dans la mise en scène, dans l'ambiance. Du coup, j'ai convoqué des amis comédiens et on s'est enfermé dans une maison de campagne et on a fait ce petit film. Voilà. ça n'a pas vraiment de rapport, mais c'est une expérimentation artistique.
Voilà, mais si on veut aller chercher sur Internet, on peut avoir tes différents courts-métrages.
Oui, si vous voulez voir quelque chose de plus récent, et de peut-être plus en rapport avec le travail depuis que tu pars, vous pouvez aller voir le court-métrage Safran, que j'ai réalisé en novembre 2023, qui est écrit par Quentin.
C'est ça.
Donc c'est un autre exemple de ce que peut écrire mon frère, et j'y fais jouer notamment Bruno, qui a un petit rôle, mais aussi beaucoup d'autres amis, et c'est un chouette film, très tendre, et avec beaucoup d'espoir, et de... Très solaire.
C'est une vraie production.
Une vraie production. C'est très amateur. On fait vraiment avec les moyens du bord. C'est entre amis. Donc, c'est juste. On s'est rassemblés pour s'amuser. En fait, il n'y a pas de.
Oui, non, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Oui. Non, on essaie de faire ça sérieusement, en travaillant bien tout, en ayant une image léchée, du son professionnel. Enfin, professionnel, non, mais de qualité.
Mm-hmm.
On s'est donné à fond. On essaie de se donner les moyens de faire des choses respectables, même si c'est amateur, quoi.
Oui, oui. Puis à un certain moment, il n'y a plus de différence entre amateur et professionnel. À partir du moment où c'est convaincant, c'est bien joué, bien interprété, qu'il y a un public derrière, c'est largement suffisant. N'est-ce pas, Nicolas ?
Les deux frangins, dans 10 ans, c'est quoi vos prochaines... Vous vous voyez comment ? Vous vous projetez comment comme créateur ? Parce que... Et touche à tout.
Bonne question. Bah, commence, toi.
Moi, dans 10 ans, j'aimerais alterner entre les plateaux de théâtre, les plateaux de cinéma. Vivre de ça. Ce serait quand même déjà ça.
Et bah pour moi, un petit peu pareil, j'aimerais pouvoir vivre de l'écriture. Dans l'écriture en France, en 10 ans, même, c'est compliqué de se faire une place forcément quand on est jeune tout de suite, etc. Mais j'aimerais beaucoup continuer à écrire pour tout. Et oui, pouvoir avoir un peu ce luxe de... j'écris des choses qui me tiennent à cœur et ça parle aux gens et ça continue à me donner la crédibilité de continuer à faire ce que j'aime et à raconter des histoires qui me font plaisir, quoi.
Et Joseph ?
Dans 10 ans, j'aurai 50 ans, donc déjà, ça fait mal.
C'est jeune, quoi.
Dans 10 ans, continuer la mise en scène, c'est quelque chose que je débute, on va dire, depuis 2 ans.
Aussi bien en théâtre qu'en cinéma ?
Alors, pas en cinéma, non, pas spécialement.
Non, pas vraiment.
Pourquoi pas faire de la direction d'acteur au cinéma, mais je me vois pas du tout réalisateur.
D'accord.
J'ai rien contre le cinéma, mais dans le théâtre et dans le théâtre musical. Voilà.
Mais la mise en scène, tu y es arrivé parce que tu étais déjà...
Parce que j'étais déjà comédien. J'étais comédien-chanteur dans le milieu du théâtre, de la comédie musicale et de l'opérette. Voilà. Et je suis professeur de théâtre et de comédie musicale. Voilà. C'est comme ça que j'y suis arrivé.
Tu te souviens de ton premier cacheton au théâtre ?
Alors, c'était un cacheton cinéma pour un film d'Étienne Chatillaise et j'ai été coupé au montage. Mais c'est mon tout premier cachet en 2007. Voilà.
Et t'en as fait quoi ?
Ça a payé mes cours de théâtre. Parce que je n'avais... Enfin voilà, parce que j'ai dû payer tous mes propres cours de théâtre. Donc voilà. Tout simplement.
Et il est obéissant, le petit jeune, là, à côté, pour la mise en scène, ou il a trop ses idées et il faut...
Alors, une réponse franche ou une réponse... Non, il est obéissant. Alors, ce qui est bien avec Gaspard et Bruno, c'est deux forces de la nature, c'est deux forces de proposition. Et c'est vrai que mon travail a été de... Je ne dis pas de sélectionner toutes leurs propositions, de savoir ce qui était bien dans la vision globale, mais en tout cas... Moi, je préfère travailler avec des comédiens qui sont force de proposition et qui proposent. Je me répète, hein, c'est ça. Mais plutôt que des comédiens où il faut tout leur dire, tout leur faire, leur expliquer tout. Limite, jouer à leur place pour qu'ils essayent de choper l'émotion. Donc, non, c'est un bon élève.
Mais quand il n'y en a que 2 sur scène, il n'y a pas besoin d'un metteur en scène ?
Non, il y a besoin juste d'un œil extérieur. Non, mais... si, parce qu'ils sont tellement force de proposition que ça peut partir en cacahuète aussi, ouais. on va pas se mentir. donc il faut un peu cadrer ça.
Canaliser. Voilà.
Canaliser les énergies. C'est 2 grandes énergies.
Mais c'est plutôt la direction d'acteur.
C'est de la direction d'acteur, et c'est là où je pense que je suis bon. Et qu'en plus, la pièce s'y prête, donc c'est agréable.
Très bien.
Mais t'es bien en train de travailler sur autre chose en tant que metteur en scène actuellement ?
J'ai un projet de comédie musicale caritatif qui va se jouer au 13e art qui s'appelle Vivre sans vie. C'est pour la recherche contre les tumeurs cérébrales pour la RTC Fontoma Berti. Et j'ai 2 projets, mais qui ne sont pas encore signés, de théâtre pour la saison prochaine. Mais j'attends que ça se valide. Donc j'en parlerai pas plus.
Et donc tu seras toujours produit ? Par la même production ?
Ah non, ça sera produit par d'autres productions, mais je continuerai à travailler avec les Martin Laprade.
Ah oui,
avec les Frangins.
Production Laprade.
S'ils veulent toujours travailler avec moi.
Allez, musique.
Oui, non, je me posais la question. Le morceau qui s'appelle Outro, c'est la fin du spectacle ou c'est...
C'est... Bah, étant donné qu'on a écouté Puisque tu pars tout à l'heure, je ne sais pas si c'est utile de le mettre, mais c'est un petit passage à la guitare qui reprend les notes de Puisque tu pars.
Voilà.
Je sais pas si vous voulez l'écouter, mais
joue.
J'ai coupé les micros quand on a posé la question, c'est qui joue?
Bah, c'est l'occasion de lui faire une petite dédicace. C'est oui. Léo Souquet qui a joué à la guitare et qui joue d'ailleurs dans le court-métrage Safran, si jamais. Il nous a filé ce petit coup de main. On le remercie encore.
Et je tenais à remercier aussi Louison Bayeux qui nous a fait toute la création Lumière, qui est très importante dans ce spectacle.
Il n'y a pas eu de costume particulier?
Un blouson de cuir principalement, et une guitare.
Deux carapaces, un en cuir, l'autre en jean.
Ouais, c'est ça. C'était un peu l'idée que j'avais. Je m'étais dit, le jean, ça fait un peu jeune, rebelle. Pas James Dean, mais l'idée un petit peu, ouais, ce genre de jeune. Et le cuir, évidemment, ça fait très rocker, à l'ancienne, tout ça. Et je me suis dit que oui, les deux là-dedans, c'était assez, assez iconique. Mais après, ça doit faire assez banal, en fait.
Il a été question de Johnny Hallyday à un moment aussi.
C'est vrai qu'on tape gentiment sur Johnny Hallyday à un moment, mais c'est vraiment...
C'est pas tant sur Johnny Hallyday que les gens qui ont des opinions très arrêtées. Parce que c'est, en fait, c'est une interaction avec un fan de Johnny qui dit ça, c'est le rock. Et le rock, c'est ça et pas autre chose. Et qui, du coup, descend Jean-Jacques Goldman, genre, ah oui, c'est... c'est consensuel, c'est niais, tout ça. Et évidemment, Gaspard s'oppose, un grand fan de Jean-Jacques Goldman, et qui lui dit « Mais non, c'est beaucoup plus que ça. » Et évidemment, l'ironie, c'est que quand le fan fait écouter du Johnny, c'est une chanson que Jean-Jacques Goldman lui a composée aussi. Mais bon, c'est pas tant tapé sur Johnny Hallyday que sur les gens qui ont des opinions un peu arrêtées, qui disent « Ça, c'est ça. » Et « Moi, j'ai raison. » Et « Le reste, c'est nul. » Et tout ça, quoi.
Et l'homme de Londres, il sait que sa chanson sert de titre et de fil semi-conducteur à une pièce?
Je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais oui, il est au courant, oui. On a eu la chance de pouvoir échanger quelques mots et
il a été très gentil.
Il a été très touché, très gentil, et on le remercie encore.
Moi j'ai une illustration sonore qui n'a rien à voir, mais c'est parce que je voulais passer ça. Les goguettes qu'on a reçues à une époque dans ce studio ont sauté sur l'occasion avec notre ministre de l'éducation nationale qui a mis ses enfants au collège Stanislas, chez les petits gris, et ça tombe bien parce que les goguettes piquent des titres d'une chanson qui existe déjà. Il y a des gens qui vont dire « N'insistez pas Stanislas de Risset-Barrier, ça ne me dit pas grand-chose. » Sur Radio Libertaire, on a cette chance que les auditeurs connaissent « N'insistez pas Stanislas » et ça donne « N'insultez pas Stanislas ».
Fichtre, quelle horreur quand je pense à notre aînée qui a vécu l'enfer en maternelle à Littré. Une école publique avec la plèbe du sixième. Pensez, dans sa classe, il y avait le fils de la gardienne. Ah, l'institutrice, fallait voir son allure. Fichu dans les cheveux, mauvais parfum, fausse fourrure. Et feignante avec ça, figurez-vous qu'elle osa s'absenter de jour à la mort de son papa. Pour sauver notre fils de cette ville populace, oh, on l'a mis à Stanislas. Même s'il est resté chez les gueux moins de 6 mois, c'est déjà foutu pour qu'il intègre les normes. Quelle misère, s'il fait sociaux à Nanterre. L'école publique public lui a laissé des séquelles. Il refuse de skier à Courchevel. Il cultive du chanvre dans un jardin partagé, joue du djembé dans un groupe LGBT. Il parle même de s'initier au maracas. Oh, préservez le Stanislas. Dans sa belle école, nous sommes enfin rassurés. Ah oui, l'entre-soi, c'est mieux que d'être mélangé. Ici, c'est l'élite, les élèves ont les bons codes. Et tant pis s'il y a quelques propos homophobes. Toutes les filles doivent s'habiller en bonne chrétienne. On remet en cause les valeurs républicaines. Pour autant, ce n'est pas du communautarisme, non. On sait que ce concept ne s'applique qu'à l'islamisme. Et pas à la honte, soyez un peu perspicace. Et n'insultez pas Stanislas. Oh non, n'insultez pas Stanislas.
Eh oui, toujours vachement bien écrit le travail des goguettes. Radio Libertaire 89,4 MHz, il est 16h37, ou elle est 16h37, je ne sais pas, et dans 23 minutes, ça sera Bulle Noire Magazine du Polar. D'ici la fin de cette émission, j'aurai le petit cadeau d'Evelyne et le petit cadeau de Jean-Marie. Jean-Marie, je crois que ça sera un albatros baudelairien. Et Evelyne, ça sera un texte de celle qui fut son invitée il y a de cela 3 ou 4 semaines, Laurence Kleinberger, avec une larme de Rivka. Mais dans l'immédiat, Moa, qu'as-tu à proposer? Des discussions
avec nos invités? Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, conclure, à part les dates, bien sûr, jusqu'au, qu'est-ce qu'on a dit,
28 mars,
c'est ça, oui. Les mercredis et jeudis à 21h, voilà, au Théâtre Essaillon, rue Pierre Aulard.
C'est ça.
Voilà. As-tu d'autres choses à rajouter par rapport à ton rapport avec Bruno? Parce que dans le spectacle, il y a un moment où c'était pas toujours amour-amour, hein. C'était... Non?
Je rappelle que c'est de la fiction. Évidemment, on a les mêmes noms dans la vie que dans la pièce, mais nous ne sommes pas ces gens-là. Bruno n'est pas mon oncle. Je tiens à le saluer. D'ailleurs, s'il nous écoute, je tiens à lui dire que voilà, c'est l'autre moitié de ce spectacle.
Moi, je parle des personnages, parce qu'à un moment, il se dit « ta gueule, ça suffit
!» Il s'engueule bien.
Oui, oui, mais c'est aussi à travers des mots comme ça qu'on se dit qu'on s'aime.
Et après, vous vous retrouvez, bien sûr,
voilà.
Dans la salle.
Ça, oui, ils s'aiment beaucoup, et c'est parce que les deux s'aiment beaucoup que j'ai pu leur écrire des personnages qui apprennent à s'aimer et aussi qui sont diamétralement opposés. Parce que Gaspard et Bruno ne se ressemblent pas beaucoup, mais se complètent. Enfin, je veux dire, les personnages de théâtre, mais aussi les deux acteurs.
On s'embrouille.
Ils s'embrouillent, notamment Avignon, c'était houleux, mais c'était. Enfin, houleux, non, j'exagère. Je pense qu'il y en a pour qui ça se passe bien moins bien. Mais il y avait des tensions, on voyait deux artistes qui. Parfois s'opposent, mais s'aiment, c'est des compromis. Et en fait, c'est de ça dont parle la pièce, donc il y a un côté méta un petit peu autour du spectacle, mais qui me fait me dire que c'est les deux bonnes personnes pour jouer ça, quoi.
Et puis, ben, on espère vous voir très nombreux au Théâtre de l'Essaillon pour découvrir cette pièce. Mais justement, c'est un conflit générationnel. Ils apprennent à se connaître. Et c'est vrai que ben, c'est pas que de l'amour, c'est pas que de la haine. C'est un mélange de tout ça qui fait que ben, les gens vont pouvoir se reconnaître dans soit Gaspard, soit Bruno. Et des fois, justement, ça peut, un jeune ou un jeune ado peut se reconnaître dans Bruno. Et quelqu'un de plus âgé peut se reconnaître dans Gaspard ou peut se reconnaître quand la personne était adolescente.
Mmh.
Voilà.
Souvenir, souvenir.
Souvenir, souvenir. J'ai quelqu'un dans le public de mercredi, je crois, ou de jeudi, qui faisait référence à une voix qu'on entend dans l'enregistrement que vous avez entendu tout à l'heure sur le premier monologue, sur une phrase, tu sais même pas ouvrir une bouteille, je crois. Mmh. Sur ces petites phrases un peu bateaux qu'on peut dire des fois à nos jeunes, à ces jeunes adolescents, quand on est parents et tout ça, et que des fois ça peut être maladroit ou peut être mal pris. Mmh. Et donc en fait, la pièce va, comment on va dire ça ?
On va parler à tout le monde.
Vraiment. On va parler à tout le monde.
Il y a une tournée éventuelle prévue, non ?
On espère. On espère. On espère.
Pour l'instant, rien. D'accord.
Pour l'instant, rien. Mais justement, cette programmation de 2 mois va nous permettre peut-être de la créer, cette tournée.
Inch'Allah.
Inch'Allah, voilà.
si, Joseph, on a quand même une date en avril.
On a une date en avril.
Au théâtre Hélios, dans la Creuse.
Dans la Creuse.
Ouais.
Dans quelle ville ?
Théâtre Hélios.
Dans la Creuse.
Dans la Creuse. D'accord, d'accord. Bon, ben, on revient à Evelyne et...
Jean-Marie.
Et Jean-Marie, voilà.
Jean-Marie, blanche comme les plumes de l'albatros.
Comme son nom l'indique.
D'abord, c'est le symbole d'une double nature du poète dont Baudelaire est lui-même l'illustration. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur, il est comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Merci.
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous épanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait et montait comme une vague où s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent, où le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le souvenir.
Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange, ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements. Quand vous irez sous l'herbe et les fleurs en grâce, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
Eh ben, ça fait une double dose de Baudelaire, finalement, mais j'ai pas pu m'empêcher, puisque la semaine dernière, avec notre invité théâtre, on avait fait référence et il nous avait donné un petit morceau de ce texte, La Charogne de Baudelaire, ici, dans la version de Léo Ferré. Dis-moi, Moa, as-tu l'intention d'intermitter spectaculairement là, dans l'immédiat? Aurais-tu un petit texte à nous offrir?
Pas spécialement. Mais bon, si tu veux, je peux regarder. Si j'ai un texte à vous offrir.
Dans ce cas-là, pendant ce temps-là, je vais nous offrir de notre côté, effectivement, le petit cadeau d'Evelyne avec un extrait donc, de Une larme de Rivka de Laurence Kleinberg.
D'une larme de Rivka de Laurence Kleinberger qui est venue parler de son livre à Dessous de Seine il y a quelques semaines, édité aux éditions du Basson. On s'habitue tellement bien à son état d'enfant. Cela semble durer si longtemps, l'enfance, que je me demande comment font les autres pour se sentir adulte, puis vieux. Depuis l'enfance, je n'ai juste pas grandi. Et je suis restée telle qu'elle. Je n'ai pas non plus vu vieillir ma mère. Elle a toujours été jeune à mes yeux, jusqu'au jour où la maladie l'a rattrapée. D'ailleurs, est-elle, elle aussi, toujours restée une enfant ? Cette petite fille qui vivait avec ses parents et sa grand-mère à Bruxelles en 42, et dont les parents, avertis de l'imminence d'une rafle, se préparaient à quitter l'appartement. Mais Bouba refusait de partir. Je suis tellement vieille, je serai bientôt morte. Les nazis ne me feront rien. Partie sans moi, je reste. Rivka a supplié des heures sa mère de les suivre. En vain. Mon arrière-grand-mère est restée sur place. Le lendemain, elle n'était plus là. Elle avait été arrêtée à plus de 70 ans, direction Auschwitz et les chambres à gaz. Rivka en pleurs a pris sa fille dans ses bras. Maman m'a dit, j'ai senti couler sur mon visage une larme de ma mère. Tiens, j'ai les yeux qui me piquent encore. Ça goutte et ça ruisselle. Et si c'était une allergie?
Favus habir zili, favus.
Ist es mein Leben trieb. Oi, wir bänk noch hier und es hier. Rifkalle, die bist mein Leben, bist mein Welt. Rifkalle, mit dir darf ich kein neues Geld. Bist schön wie die Levone, was da ja mit rein. Die bist am Matüne, schönes kann ich sein. Rifkalle, mein Herz gegeben wollt ihr dir. Rifkalle, Rifkalle, lieb dich und aschir. Rifkalle, die bist mein Leben, bist mein Welt. Rifkalle, mit dir darf ich kein neues Geld. Bist schön wie die Levone, was da ja mit rein. Die bist am Matüne, schönes kann ich sein. Rifkalle, mein Herz gegeben wollt ihr dir. Rifkalle, Rifkalle, lieb dich und aschir. Die sind, sie scheint in vollem Glanz. In mir mein Herz ist schon nicht ganz. Mein Welt vor mir ist trieb. Kein Sach ist mir nicht lieb. Weil alles, was aber geht, ist schon zu stellen. Rifkalle, die bist mein Leben, bist mein Welt. Rifkalle, mit dir darf ich kein neues Geld. Bist schön wie die Levone, was da ja mit rein. Die bist am Matüne, schöneres kann nicht sein. Rifkalle, mein Herz gegeben wollt ihr dir. Rifkalle, Rifkalle, lieb dich und aschir. Rifkalle, die bist mein Leben, bist mein Welt. Rifkalle, mit dir darf ich kein äußeres Geld. Bist schön wie die Levone, aus der Jamme train. Die bist am Matüne, schönes kann ich sein. Rifkalle, mein Herz gegeben wollt ihr dir. Rifkalle, Rifkalle, lieb dich und aschir.
Rivka est le prénom yiddish équivalent de Rebecca et Rivkele, en dépit des apparences, c'est un diminutif de Rivka. Tango yiddish classique sur l'antenne de Radio Libertaire, Moa Atoa.
Un petit passage de Mahedine Bentir, c'est un petit texte qu'il a écrit contre le racisme et qui s'appelle « Y a-t-il une place pour ma race ?» Alors il dit « Je m'appelle, on m'appelle Peur Bougnoul, même si je parle un langage cool. Fier maghrébin de Liverpool, en tant qu'immigré, on me coule. Y a-t-il une place pour ma race, quand les marchands d'armes nous menacent ? Y a-t-il une place pour ma race, quand on pollue trop mon espace ? Kain mazarab, le oulidès al-arab, me kesh mazarab, ou ne roh igulou li sab. » Etc, etc, etc. Voilà, c'est assez long.
Eh bien voilà, on rappelle le spectacle.
Alors, rappel du spectacle.
Rappel du spectacle. Donc, puisque tu pars au théâtre de l'Essaillon jusqu'au 28 mars, tous les mercredis et jeudis à 21h.
L'adresse rue Pierre-Aulard.
6 rue Pierre-Aulard, dans le 4e arrondissement.
Voilà. Métro, hôtel de ville.
Hôtel de ville ou Rambuteau.
Voilà. Direction Pompidou.
Voilà, en face du Pompidou.
Pratiquement en face du centre Pompidou.
Voilà.
Et au cul du café de la gare.
Oui.
Voilà, et
oui.
Pas loin du café de la gare, effectivement.
Juste à côté.
Eh ben... On se retrouve, Moa, on te retrouve dans un mois, si j'ai bien suivi, avec les alternances dans le cadre de cette émission entre les différentes équipes.
Comme
la semaine prochaine, eh bien, c'est Ariel, Elsa, Michel et Sophie qui nous livreront quelques textes. Et dans 4 minutes sur Radio Libertaire, c'est les bulles noires du polar qui vont exploser.
Ok, ben, un grand merci.
Merci beaucoup.
Et puis, miel là. Pour la suite, c'est comme ça.
Radio Libertaire, on va parler de polar. du libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire.
T'as bien capté, bulle noire, du libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, du libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures,
baby.
Faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, bulle noire, sur libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de polar, sur libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire.
Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, une émission en deux parties aujourd'hui avec Alexandre Courban qui vient de publier aux éditions Agulo Passage de l'avenir 1934, donc on revient 90 ans en arrière, bah ouais, 1934. Et en seconde partie d'émission, on parlera du dernier roman de Sébastien Gendron, Chevreuil, publié dans chez Gallimard, dans la Noire, n'est-ce pas ? Sébastien qu'on a eu le plaisir de recevoir il y a quasiment un an.
Pratiquement.
Ouais, c'était pour le précédent.
Chez Paradis.
Voilà. Et là, le précédent, d'ailleurs, c'était avec Pelot. Et là, il y a une petite surprise. On en parlera dans quelques minutes. Passage de l'avenir 1934. Si je devais faire un petit résumé de 1934, ça se passe évidemment en 1934. Il y a pas mal d'événements historiques qui secouent la France. En particulier avec une grosse affaire sucrière qui va arriver d'ailleurs à la mort d'un personnage sulfureux et qui va provoquer aussi une montée d'antisémitisme, etc. C'est évidemment l'affaire
du sucre.
Stavisky, évidemment. Ah oh. Allez, on serait... Bon, et alors, ce que tu mets en scène dans Passage de l'avenir 1934, c'est évidemment cette histoire en fond, et en particulier les aventures.